Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance. Pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser toutes les questions que l'on se pose en tant que parent et je les partage ensuite avec toi. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 48e épisode, je reçois Nadège Pétrel, qui est infirmière péricultrice et la fondatrice de Un amour au naturel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat. Nous allons parler de la mort et de la maladie. Mais surtout, comment en parler à nos enfants? Comment répondre aux questions qu'ils se posent sur la mort? Comment leur en parler lorsqu'on est concerné par la mort d'un proche? Comment parler d'une maladie grave qui toucherait un membre de la famille? Ou comment accompagner un enfant qui serait malade dans les soins et les traitements qu'il va devoir subir? Nadège nous aide à trouver les bons mots dans toutes ces situations où parfois on ne sait pas comment faire. Elle nous partage également une partie de son expérience vis-à-vis de la maladie et le décès de sa maman, et je la remercie pour ses confidences. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Nadège.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Bah avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Je suis contente d'être ici aujourd'hui.
Alors avec toi, on va parler d'un sujet un peu difficile parfois pour les parents et pour les enfants. On va parler de la maladie et de la mort et de comment aborder ça avec nos enfants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton métier s'il te plaît?
Alors moi, je suis infirmière puéricultrice depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai suivi diverses formations, on va dire, pour justement enrichir mes accompagnements auprès des familles. Je suis aussi donc professeure de yoga pour enfants et autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant » qui est sorti là en septembre 2021 aux éditions Erol. J'accompagne donc à la fois les enfants, les familles aussi, en pré et en post-natal, donc autour du sommeil, du portage bébé, du massage bébé, la communication gestuelle associée à la parole, etc., au travers d'ateliers, d'interventions, de conférences. Et je propose aussi donc des formations pour les professionnels de la petite enfance, professionnels de santé, autour du bien-être, des émotions, du yoga aussi. Donc en fonction des demandes et de mes compétences, je m'adapte aussi.
Ok. Alors, on va rentrer avec la big question, celle que tous les parents se posent à un moment donné, c'est comment on explique ce qu'est la mort à nos enfants. Parce qu'il y a, alors, soit on y est confronté, et du coup, on se demande comment on explique ça à nos enfants, soit il y a un moment où les enfants, dans tous les cas, se posent la question et nous demandent ce qu'est la mort. Et j'avoue qu'en tant que parent, c'est pas toujours simple à expliquer comment on fait ça avec nos enfants.
Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident parce que bah, c'est un sujet qui renvoie à de la douleur, au deuil. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous est agréable. Et du coup, c'est vrai que même en tant que parent, on peut se retrouver parfois un petit peu bloqué ou en difficulté pour essayer de trouver les fameux bons mots. Alors, ça peut être suite effectivement à la perte d'un animal, d'un membre de la famille ou comme tu le disais aussi tout à l'heure, tout simplement un enfant qui se pose des questions. Peut-être qu'un camarade à l'école a perdu son grand-père, sa grand-mère et qu'ils en ont parlé et que du coup, votre enfant va rentrer à la maison en vous posant la question, bah, voilà. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Qu'est-ce qui se passe quand on est mort ? Alors, pour l'avoir vécu aussi de très près, puisque donc pour recontextualiser aussi d'un point de vue un peu plus perso, donc moi je suis maman de deux filles qui ont aujourd'hui quasiment 7 ans et 9 ans et demi. Et il y a quelques temps de ça, donc on a perdu, enfin moi j'ai perdu ma maman, donc leur grand-mère. Donc c'est vrai qu'on a été touchés voilà, de près et plus tôt que prévu. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça à nos enfants ? Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression et essayer d'expliquer un petit peu avec les mots qui nous viennent. Alors moi je sais que j'aime bien dire par exemple que voilà, le cœur de la personne s'est arrêté de battre. Parce qu'on est dans des faits et que c'est effectivement l'arrêt bah, des battements du cœur qui fait que bah, voilà, là, on estime que la personne ou l'animal est décédé. Donc, c'est voilà, on peut sentir notre cœur quand on met notre main sur la poitrine. Effectivement, on sent les petits battements, on peut même les entendre si notre enfant colle son oreille sur notre poitrine à nous. Et puis, bah, le jour où on ne l'entend plus du tout battre, eh bien, c'est qu'effectivement, la personne est décédée. Donc, c'est vrai que ce sont des mots que j'aime bien employer parce que c'est simple, parce que le cœur, c'est quand même un des rares organes que l'enfant peut sentir, toucher, entendre, percevoir, comprendre, parce que c'est vrai qu'on l'associe aussi beaucoup à l'amour. Souvent, dans les dessins, les enfants dessinent des petits cœurs, etc. C'est quand même beaucoup plus rare de les voir dessiner un poumon, un rein ou un pancréas. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'ils normalement connaissent et maîtrisent vraiment dès le plus jeune âge. Après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est important d'essayer d'éviter de dire que, par exemple, la personne est partie au ciel ou dans les étoiles. Parce que ça peut amener un enfant qui va sans cesse se questionner à chaque fois qu'il, par exemple, verra un avion passer dans le ciel. Ah bah tiens, est-ce que dans l'avion, il y a mamie ? Enfin, et du coup, amener une certaine pensée très régulière de l'enfant et du coup, qui va nous poser aussi beaucoup de questions pour lesquelles, au final, on ne saura pas trop comment se dépêtrer. Alors que quand on reste vraiment sur quelque chose de factuel, ça reste beaucoup plus simple, même pour nous, dans les explications. Après, pareil, on va essayer d'éviter aussi de dire à l'enfant que la personne s'est endormie, parce que le sommeil, c'est complètement différent de la mort et qu'il peut arriver que ça provoque des troubles du sommeil, en fait, chez l'enfant, qui va avoir peur soit lui-même de s'endormir, soit que papa et maman s'endorment, et du coup bah, qu'ils ne puissent plus les revoir derrière. Donc c'est vrai que bah, nous ça reste une façon douce de pouvoir expliquer effectivement la mort, mais au final ça peut avoir des répercussions assez importantes sur l'enfant. Donc vraiment ce que moi je propose le plus souvent, c'est vraiment de partir sur ces mots-là, que le cœur de la personne s'est arrêté de battre.
Ok, rester dans l'explication physique, on va dire, de ce qu'est la mort.
C'est ça.
Et puis, enfin, j'ai envie de dire, ce qui se passe après la mort, c'est aussi très dépendant de notre religion, de notre propre croyance et de ce dans quoi on a vécu. Donc ça, on peut l'expliquer à l'enfant en fonction de ce que nous, on en pense. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité derrière ça. C'est propre à chacun.
Oui. Alors effectivement, ce qui se passe une fois que la personne est morte, là, comme tu viens de le dire, en fait, c'est vraiment famille dépendant. C'est-à-dire que en fonction des religions, en fonction de nos croyances, bah, si déjà on a une religion ou pas, si on croit en l'âme ou pas, en un dieu, on va l'expliquer après un petit peu chacun à notre façon. Et là, effectivement, bah, y a pas une façon de faire.
Mmh. souvent, il y a une question qui vient de suite après la question de qu'est-ce que c'est la mort. C'est est-ce que toi, tu vas mourir un jour, maman ou papa? Et est-ce que moi, je vais mourir un jour et comment ça va se passer? Comment, en même temps, on leur explique que oui, ça va arriver. Et en même temps, on les rassure sur le fait qu'a priori, ça ne va pas arriver tout de suite et qu'on peut continuer à vivre comme si de rien n'était.
C'est ça, c'est un petit peu l'ambivalence. Alors là, c'est important, comme tu le disais, effectivement, de dire que oui, tout être vivant, en fait, finit par mourir, alors que ce soit les animaux, les fleurs, on le voit aussi avec les feuilles des arbres au fil des saisons. Et donc, effectivement, les êtres humains, c'est pareil. Après, on peut effectivement rassurer l'enfant en lui disant qu'en général, la plupart du temps, effectivement, un être humain meurt, mais quand il est très, 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 très vieux. Et du coup, pour l'instant, nous, ce n'est pas notre cas. Notre enfant non plus. Donc, normalement, ce n'est pas censé arriver pour tout de suite, effectivement. Et on peut continuer à profiter de la vie et à faire plein de choses ensemble. Et justement, de profiter d'être en bonne santé aussi pour faire plein d'activités qui vont nous faire du bien et qui vont nous remplir le cœur de bonheur.
Mmh. Il y a un cas qu'on rencontre assez souvent, mais qui n'est pas dans le quotidien non plus, mais qui arrive régulièrement. C'est une personne de la famille qui a une maladie grave, que ce soit un cancer ou une autre maladie. Comment on aborde ça avec les enfants? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'il n'est pas intéressant de leur dire parce que ça ne les concerne pas? Est-ce que tant que ça ne se voit pas, il vaut mieux ne pas en parler? Comment on aborde ça avec nos enfants?
Alors moi, je pars du principe que c'est toujours intéressant de leur parler et de leur dire. Pas de rester dans « je cache des choses ». Alors, ne pas cacher des choses, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout raconter dans les moindres détails non plus. Hein. Bien évidemment, on va vraiment adapter notre discours en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de sa sensibilité et en fonction de ce qu'on sent qu'il est prêt à entendre et comprendre ou pas. Donc c'est vraiment, là aussi, il n'y a pas, j'ai envie de dire, un discours type, parce que ça va vraiment être au cas par cas. Par contre, je maintiens vraiment pour moi, il est vraiment important de pouvoir expliquer que là, voilà, telle personne de la famille est malade, que ça reste peut-être une maladie très grave, et aussi informer l'enfant sur les soins. C'est-à-dire si, par exemple, cette personne est soignée, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, eh bien dire que voilà, il y a des infirmières, des médecins qui s'occupent de cette personne et de lui trouver un traitement et de faire en sorte que peut-être elle puisse guérir. Après, des fois, on ne sait pas trop aussi, en fonction du diagnostic, si... effectivement, l'issue, c'est vraiment la guérison ou au contraire, si c'est la mort. Donc là, on peut dire que pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, si la personne va guérir, mais que par contre, les médecins, eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour papy, pour mamie, par exemple. Et effectivement, quand on a une maladie comme un cancer, alors là, il existe... un livre, si je ne me trompe pas, un album jeunesse qui s'appelle « Papa a un cancer », que je trouve vraiment très, très bien fait, dans le sens où il explique vraiment, donc déjà, ce qu'est un cancer, ce que ça n'est pas aussi, parce que, par exemple, il donne l'exemple de quand on est du signe astrologique du cancer, est-ce que ça veut dire que, moi aussi j'ai un cancer ou je vais avoir un cancer, donc des petites choses comme ça auxquelles nous en tant qu'adultes on ne penserait pas forcément mais qui peuvent aller très vite dans la tête des enfants, donc il y a un côté rassurant. Ça explique donc aussi que le cancer c'est une boule qui se forme sur un organe à l'intérieur du corps, etc. Et puis il y a aussi tous les intervenants médicaux, paramédicaux qui gravite en fait autour de la personne qui est porteuse du cancer. Donc, ça explique qu'est-ce que c'est qu'une infirmière, quel est son rôle, le rôle du psychologue, le rôle du radiologue, je crois, peut-être du chirurgien, enfin, je ne sais plus. Il y a un petit peu tous les corps de métier qui sont expliqués, détaillés. Et puis après, ça finit bien dans le livre. Le papa guérit, il peut reprendre effectivement également des activités sportives. Par contre, ce sont des activités qui vont être différentes de celles qu'il aimait faire avant. Parce que voilà, il faut aussi faire un petit peu plus doucement juste après l'intervention, juste après les traitements. Donc, ça explique bien que la personne peut être fatiguée, mais pour autant allait très bien. Et puis ensuite, on adapte, on voit si notre enfant a aussi d'autres questions ou pas, parce qu'il y en a qui vont en avoir plein, et puis il y en a qui n'en auront pas forcément. Donc ne pas hésiter à juste dire à notre enfant, bah, que voilà, nous on est disponible si jamais il a d'autres questions, parce que peut-être qu'il n'ose pas, peut-être qu'il n'en a pas tout de suite, mais que ça viendra dans quelques jours, et pour qu'il puisse se sentir à l'aise et suffisamment en confiance pour venir nous les poser et pas les garder à l'intérieur de lui. Voilà, on peut juste poser cette petite phrase-là en disant que bah, voilà, nous on est disponible si jamais il y a de nouvelles questions qui arrivent dans les heures et dans les jours qui suivent.
Et parfois, c'est vrai que les enfants, ils ont des questions auxquelles nous, on ne pense pas du tout. Ils s'attardent pas du tout sur les mêmes détails que ce que nous, on peut avoir, en fait. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout la même accroche. C'est-à-dire, il y a des choses qui, nous semblent hyper graves et eux ne comprennent pas. Et par contre, il y a des petits détails sur lesquels ils vont s'accrocher et avoir plein de questions, alors que nous, ça nous semble très futile.
Exactement. Et c'est pour ça que de laisser cette porte ouverte là, en disant si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Ça ouvre aussi sur le fait que bah, nous, on a notre regard d'adulte et on n'a plus notre regard d'enfant. Et effectivement, on ne porte pas notre attention sur les mêmes détails et des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé à expliquer, mais qui, eux, vont leur poser questions ou problèmes. Et du coup, bah, ça leur permettra de venir nous demander tout ce qui les titille encore un petit peu. Et ça leur permettra aussi potentiellement de mieux dormir, parce que c'est vrai que quand il y a des petites angoisses, des petites choses qui restent un petit peu en suspens ou sans réponse, ça peut aussi jouer sur le sommeil de l'enfant.
Ok, on va rentrer dans le cas où on a quelqu'un de proche que connaît l'enfant qui décède. Est-ce qu'on en parle à son enfant, quel que soit son âge ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on a un petit bébé qui a quelques mois, c'est intéressant de lui en parler quand même par rapport à ce que nous, on va ressentir, ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire ? Et à partir de quel âge on commence à rentrer un peu plus dans les détails ?
Alors là encore, je pense que c'est toujours intéressant d'en parler. C'est-à-dire qu'en fait, si on a quelqu'un qui nous est proche, qui décède, on va avoir tout notre processus de deuil à faire. Et dans ce deuil-là, il y a de la tristesse, il y a à certaines étapes de la colère, etc. Donc si vraiment c'est quelqu'un de très proche, c'est possible qu'on soit un petit peu à fleur de peau, qu'on ait des émotions un petit peu vives, qu'on pleure, etc. Donc même si on a un tout petit bébé qui ne va pas forcément, enfin voilà, ne va pas comprendre ce que c'est que la mort, que cette personne qui peut-être même le bébé n'aurait potentiellement même jamais vu, etc. Mais on peut dire à notre bébé, voilà, tu vas peut-être sentir que maman, papa est triste, cette tristesse, elle m'appartient. Toi, tu as le droit de continuer à être joyeux, tu as le droit de continuer à gazouiller, à rire, à faire tes éclats de rire, voilà, à attraper tes objets, tes jouets. Tout va bien pour toi, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. Donc, c'est vraiment juste cette petite phrase-là pour informer notre bébé que oui, peut-être il va sentir un petit changement chez nous pendant quelque temps, parce que nos émotions, elles ont un impact sur notre attitude, sur notre regard, sur les expressions de notre visage, sur notre voix, sur notre patience, enfin, sur plein de points. Tout ce qui est en fait communication non verbale, mais aussi verbale, qui va entrer en jeu. Donc forcément, notre enfant, quel que soit son âge, va détecter ce changement-là. Donc c'est important effectivement de pouvoir être rassurant et puis tout simplement en fait informer que bah oui, on est triste et c'est normal d'être triste quand on perd quelqu'un. Donc là, pour le coup, je rebondis sur l'enfant qui va être un peu plus grand. Ça peut être à partir de 18 mois, à partir de 2 ans, qu'on va essayer effectivement de poser des mots juste en disant, ben voilà, je sais pas, Tati est décédée, donc son petit cœur s'est arrêté de battre. On ne pourra plus la voir, on ne pourra plus l'entendre. Nous, on peut continuer de lui parler, même si elle ne nous répond pas. Et c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup de peine, beaucoup de tristesse à l'intérieur, et peut-être que tu vas me voir pleurer. Et là, pareil, dire à notre enfant, mais toi, tu as le droit d'être triste ou de ne pas l'être, et tu as le droit de continuer à être joyeux si toi, tu ne ressens pas de tristesse. Par contre, c'est possible que moi, tu me vois un petit peu pleurer, et c'est normal, parce que quand on a de la peine, eh bien souvent, on a envie et besoin de pleurer. Il n'y a pas besoin voilà, de faire des grands discours et de rentrer dans une dissertation d'une heure, mais vraiment juste d'avoir des petits mots simples et d'expliquer brièvement ce qui se passe pour nous à l'intérieur de nous, pourquoi. Et puis, toujours d'avoir ce côté effectivement rassurant par rapport à l'enfant et surtout bien garder en tête aussi en tant que parent que des fois on s'imagine que notre enfant va être triste et des fois c'est pas le cas. Et des fois ça nous surprend et on se dit mais mince, qu'est-ce qui se passe?
Il a pas compris.
Il a pas compris. En fait, c'est juste qu'il n'y avait pas forcément autant d'attaches, peut-être, ou peut-être qu'effectivement, il ne comprend pas sur le moment et que ça viendra après, mais peut-être qu'il ne sera jamais triste, ou en tout cas, pas du tout de la même façon que nous, qui aurons peut-être passé 20 ans, 30 ans de notre vie à côtoyer cette personne, alors que notre enfant en aura passé 4 ou 5. Donc, les répercussions, elles ne sont pas, émotionnellement parlant, elles ne sont pas les mêmes. Après, c'est important de toujours quand même voilà, garder un petit œil un petit peu vigilant et de rester bien dans l'observation de notre enfant pour voir effectivement qu'il n'y ait pas quelque chose de refoulé, sans pour autant s'en faire une psychose, hein, encore une fois, en se disant « mais il n'a pas pleuré, c'est pas normal ». Voilà. Juste garder en tête que c'est possible, que tout aille bien pour lui, tout en gardant un petit œil et un petit regard vigilant pour être sûr que ce soit bien ça et pas effectivement une émotion... refoulé avec peut-être un besoin d'en parler à un psychologue ou autre.
Ok. Est-ce que c'est intéressant de les amener à une à la cérémonie de l'enterrement, de la crémation, une cérémonie civile en fonction de ce qu'a choisi la famille ? Est-ce qu'il faut leur laisser le choix ? Est-ce que à partir de quel âge ça peut être intéressant pour eux ?
Alors là, les avis sont un peu mitigés. Alors, je pense qu'en fonction de l'âge de l'enfant, déjà, on peut lui proposer, effectivement, est-ce que tu as envie de venir ou pas, et comme tu le disais, de pouvoir lui laisser le choix, parce qu'il y a des enfants qui peut-être auront envie de venir et d'autres pas du tout. Donc, en tout cas, pour ceux qui n'en ont pas du tout envie, je pense que c'est important de ne pas les forcer à venir s'ils ne se le sentent pas. Maintenant, pour les enfants plus petits, alors, j'ai déjà entendu dire, par exemple, oui, mais... au final, moi, j'ai fait venir mon enfant et mon enfant a été un véritable rayon de soleil, en fait, pour plein d'adultes qui auraient été tristes et de voir un tout petit plein de vie, etc., ça leur a fait du bien. Par rapport à ces discours-là, moi, je dis attention parce que est-ce que vraiment c'est le rôle de l'enfant de distraire les adultes? Et en attendant, en parallèle de ça, quelles sont les conséquences pour l'enfant de voir aussi... Voilà, beaucoup de gens qui sont tristes, qui pleurent, parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc aussi beaucoup de stimulation pour ces enfants-là. Donc, quelles répercussions aussi ? Est-ce que, voilà, vraiment, c'est leur rôle si on y va avec cette intention-là ? Ensuite, il y a des enfants qui, même tout petits, vont venir participer Enfin, ce sera OK et ça se passera bien pour eux. Donc là, j'ai envie de dire que c'est vraiment vous qui connaissez le mieux votre enfant et sa sensibilité. Je pense que tout est effectivement dans la sensibilité de l'enfant. Et aussi, bah, après, des possibilités. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le faire garder ou pas ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un membre de la famille, un ami, un voisin ? Ou est-ce qu'on est en galère et du coup, là, il faut qu'il vienne avec nous. Donc, il y a un petit peu plein de paramètres là aussi à prendre en compte. Pour ma part, d'un point de vue personnel, je pense que la cérémonie n'est pas forcément indispensable pour l'enfant. Par contre, c'est vrai que le passage au cimetière, pour dire de montrer à l'enfant où est le corps de la personne, etc., quand celui-ci a été enterré, là, il peut y avoir un intérêt pour lui pour mieux comprendre effectivement ce qui se passe une fois que la personne est morte. Donc, le passage au cimetière, on peut le faire quelques jours après l'enterrement. Ce n'est pas obligé que ce soit le jour J, au moment où il y a tout le monde qui y va, etc. Ça peut être 3 jours après, on y retourne tranquillement, juste avec notre enfant, et on prend le temps, là aussi, de répondre à ses questions s'il en a, de lui montrer, de lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et des fois, même nous, le fait qu'il n'y ait pas toute la famille autour, on est... un peu plus posé et un peu plus disposé aussi pour accorder notre attention à notre enfant.
Ok. Comment on répond à la question de ce que devient le corps alors que ce soit s'il est enterré ou s'il y a eu une crémation, parce que c'est vrai qu'il y a la question de est-ce que les vers de terre vont le manger ? Les cendres, qu'est-ce qu'on en fait ? Il peut y avoir plein de questions sur la représentation de ce que devient ce corps qui était quelqu'un et qui finalement va se transformer. Comment on répond à tout ça à nos enfants ?
Alors là, déjà, j'ai envie de dire que ça dépend de si vous vous sentez à l'aise ou pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ne vont pas forcément se sentir à l'aise avec ça. Donc déjà, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément, comment dire, aux parents à répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que s'il y a des sujets ou des moments clés par rapport à toutes ces étapes-là, de processus, de maladie, deuil, mort, etc., corps, l'âme, s'il y a un sujet en particulier pour lequel vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez demander aussi justement à tati, à tonton, à la marraine, aux parrains, aux grands-parents, à la voisine, de prendre le relais pour essayer de répondre à cette question. Après, moi, je pars du principe, encore une fois, que si on est à l'aise, oui, on peut expliquer ce qui se passe, en fait, une fois que le corps a passé plusieurs mois et plusieurs années à l'intérieur du cercueil. Et effectivement, si on veut rentrer dans tous ces détails-là, on peut se servir aussi, alors pour les enfants un petit peu plus grands, montrer en parallèle, par exemple, les momies. Ça peut être aussi une façon de détourner, mais en même temps de pouvoir montrer de façon un petit peu plus concrète, alors même si ça reste différent parce que nous, nos corps, ils ne sont pas momifiés, mais déjà de pouvoir expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Et puis après, oui, on peut expliquer effectivement que voilà, au bout d'un moment, le corps, il se décompose et que oui, il y a des petits insectes qui viennent. Et après, si c'était une incinération, à ce moment-là, juste dire que voilà, le corps, de toute façon, a été brûlé et que les cendres sont à tel endroit. Et c'est aussi là que bien souvent, on va enchaîner avec l'âme ou nos croyances ou la religion et faire effectivement cette différence et cette distinction entre le corps et l'âme en fonction des croyances de chacun.
Ok. Est-ce que tes enfants à toi, par exemple, ils ont posé beaucoup de questions de ce genre-là ?
Alors, moi, je dirais, dans mes souvenirs, hein, parce que ça remonte un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'elles aient posé beaucoup de questions, hormis, effectivement, autour de la cérémonie, de l'enterrement, et effectivement, du corps et de l'âme. Après, de savoir qu'est-ce que devient le corps ou des choses comme ça, ce sont pas des questions qu'elles ont posées. Après, c'est vrai que... Alors, nous, c'était un peu particulier dans le sens où ma maman était hospitalisée à domicile et ce domicile, c'était chez nous. Donc, elle est vraiment décédée dans notre maison et nous, on était tous là. Donc, c'est vrai que, entre guillemets, elles ont eu aussi la chance de voir la psychologue le jour J parce que voilà, on avait comme il y avait une maladie qui était là et que ce n'est pas arrivé de façon brutale du jour au lendemain. Il y avait effectivement une psychologue qui suivait ma maman, qui me suivait à moi. Et quand il y a eu besoin, quand maman est décédée, elle est venue le soir, tard, et elle a pris un temps aussi pour leur parler, pour voir si elles avaient des questions, etc. Et là aussi, je pense que c'est important de ne pas hésiter à consulter quelqu'un, alors soit en amont, soit après. Parce que des fois, quand on est vraiment submergé par les émotions, on n'a plus les idées claires, on n'y arrive plus clairement. On ne peut pas être dans l'accompagnement et l'aide de l'autre quand soi-même, on n'arrive plus et qu'on est submergé par la vague. Donc, c'est important de ne pas hésiter à passer ce relais aussi auprès de professionnels dont c'est le métier et qui sont formés et qui sont là pour ça et qui, à coup sûr, effectivement, trouveront les bons mots ou le bon moyen d'aborder ça aussi avec les enfants.
Il y a un cas, c'est la mort d'un animal dans la famille, parce que ça arrive régulièrement qu'on ait des chiens, des chats, des lapins, des hamsters dans la famille, auxquels les enfants sont très attachés, souvent. Et quand l'animal décède, parfois on est un peu désemparé en tant que parent de voir la tristesse que ça peut représenter pour les enfants, alors que ce n'est, entre guillemets, qu'un animal. Comment on gère ça ?
Oui, alors effectivement, s'ils sont attachés à cet animal ou même que c'était peut-être leur animal de compagnie, ça peut être très compliqué pour l'enfant et peut effectivement ressentir vraiment une très grande tristesse. Donc là, j'ai envie de dire que comme pour toute émotion et à chaque moment et chaque étape de la vie, eh bien, c'est être dans l'accueil en fait, de ce qui se passe pour notre enfant. Même si nous, des fois, peut-être qu'on trouve ça démesuré, alors je vais faire une comparaison peut-être un peu maladroite, mais c'est un peu comme quand un enfant tombe, qui se fait mal, qui se met à pleurer et qu'on lui dit « Oh non, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Enfin, » En fait, pour l'enfant, si, c'est grave. Donc, c'est important de ne pas le nier. Après, peut-être que nous, à notre échelle, voilà, et qu'on peut ensuite mettre des choses en place pour rappeler à l'enfant que la dernière fois où là, carrément, j'en sais rien, il s'était peut-être ouvert le genou, là, c'était plus important pour repositionner un peu les choses, mais sans pour autant minimiser. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être que nous, en tant que parents, la perte de cet animal, ça nous fait peut-être ni chaud ni froid, j'en sais rien. Et encore, ça me laisse un peu perplexe, mais bon, pourquoi pas. Mais notre enfant, bah, lui, il est triste et il a le droit d'être triste. Donc effectivement, on va accueillir ça et on peut s'asseoir à côté de lui, le prendre sur nos genoux. Là aussi, pareil, en fonction de son âge, lui dire « Ok, je vois que bah, là, tu pleures. » Ça te fait beaucoup de tristesse, c'est ça? Tu aurais aimé qu'il puisse vivre encore? Tu as passé de bons moments avec ton animal? Qu'est-ce que tu aimais faire avec lui? Donc, vraiment, bah, voilà, lui parler de cet animal, être en empathie avec lui. Et puis après, on peut mettre aussi des petites choses en place, comme, je ne sais pas, lui créer un petit hôtel ou allumer une bougie. Ou dessiner, tiens, tu as envie de dessiner ton hamster, comme ça, voilà, on garde un petit souvenir, etc. Ça peut être se faire un petit album photo aussi, de si jamais on avait des photos de notre enfant avec cet animal, et lui dire, ah tiens, tu as envie qu'on crée un petit album photo, voilà, comme ça, tu pourras le regarder quand il te manquera. Voilà, et toujours expliquer bah, que bah, si l'enfant il a envie de parler à son animal, même s'il ne le voit plus et qu'il ne l'entend plus, bah, il peut continuer à lui parler dans sa tête ou de vive voix.
Oui, et c'est vrai que parfois, même sans que ça nous fasse ni chaud ni froid, on peut aussi en tant qu'adulte ressentir de la tristesse, mais on a plus de facilité à se dire « Ok, c'est quand même pas tout à fait la même chose que si c'était effectivement papy ou mamie. »
On a, en fait, on a ce recul... enfin notre cerveau en tout cas qui nous permet effectivement de pouvoir avoir ce raisonnement-là, ce recul que l'enfant, lui, son cerveau ne lui permet pas d'avoir effectivement.
Ok. Les dernières questions, elles sont dans le cas où c'est l'enfant lui-même qui a une maladie grave, parce que ça arrive aussi que les enfants ils aient des maladies qui sont graves, voire mortelles pour eux aussi. Comment on fait quand on a un enfant qui est malade, qu'on l'apprend, comment on en parle avec lui, comment on en parle avec les frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des mots qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il faut débriefer, par exemple, les rendez-vous qu'on peut avoir avec les médecins, avec eux, parce que souvent, ils sont là, mais ils ne comprennent pas forcément tout ce qui est dit?
Alors déjà, je pense que c'est important, effectivement, de laisser aux médecins ou aux professionnels de santé sa part. C'est-à-dire que c'est lui qui va expliquer de prime abord un petit peu ce qui se passe. Alors des fois, il nous l'explique à nous en tant que parents sans l'enfant et puis ensuite on fait entrer l'enfant. Des fois, il y a l'enfant. Enfin, ça dépend un petit peu des différents cas de figure. Mais dans tous les cas, je pense que c'est déjà important d'avoir ce temps-là où c'est le médecin qui explique. C'est une personne extérieure qui a l'habitude de ça, parce que ben, bien souvent, voilà, ce sont des spécialités qu'ils ont et qui fait que ben, malheureusement, ils n'en sont pas à leur premier diagnostic et donc à leur première explication. Mais du coup, ben, voilà, eux, ils sont là pour ça. Donc, c'est important de, en tant que parent aussi, pouvoir compter sur les professionnels de santé qui seront là bien souvent dans le parcours de la maladie de toute façon, parce que en général, il y a un traitement qui va suivre, donc on sera amené à les revoir aussi. Ensuite, effectivement, s'il y a une fratrie, eh bien là, on va pouvoir expliquer aux frères et sœurs ce qui se passe. On peut déjà demander aussi à l'enfant qui est concerné si lui, il a envie d'expliquer ce qu'il a compris à ses frères et à ses sœurs. Et ensuite, nous, en tant qu'adultes, on complète plus ou moins. Donc là aussi, ça va dépendre de l'âge des enfants concernés, enfin, si ce sont des grands frères, grandes sœurs, ou au contraire plus petits, quel âge ils ont, etc. Encore une fois, le support des livres peut être aussi très utile. Et là, c'est pareil, il y en a plein sur divers sujets, pour pouvoir essayer de mieux comprendre, d'aborder de façon aussi illustrée, donc avec les images, ce qui se passe ou ce qui va se passer par rapport au traitement éventuel. Et là aussi, ensuite, peut-être soit d'apporter des réponses aux enfants directement de par l'histoire et le livre, soit peut-être de faire émerger des questions auxquelles on va pouvoir répondre. Ensuite, on peut aussi, au fil du parcours de soins, avoir tout un petit matériel de la maladie du docteur, etc., et faire un petit peu des mises en scène où là, on va laisser l'enfant faire. Donc, c'est possible aussi que dans ces moments-là, bien souvent, les enfants, ils aiment bien jouer le rôle du docteur et que papa-maman soit la personne à soigner. Pourquoi ? Parce que ça leur redonne une certaine maîtrise, une certaine confiance aussi par rapport à la situation. Ils peuvent maîtriser un petit peu ce qui se passe et l'issue du jeu et du coup des soins. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire toutes ces petites activités-là ensemble à la maison.
Est-ce qu'il existe un livre, à ta connaissance, qui explique aux enfants quels sont les soins « classiques » entre guillemets qu'ils peuvent rencontrer, à savoir une prise de sang, une radio, un IRM, une opération ?
Je pense que sur le site Sparadrap, si je ne me trompe pas, il y a tout un tas de petits fascicules, le dico de la santé, les piqûres, les médicaments, l'hôpital. Donc vraiment, pour moi, tu vois, le site de référence, c'est le site Sparadrap, comme un sparadrap.org, pour feuilleter, imprimer et montrer aux enfants, ou pour nous, parents, lire et ensuite pouvoir réutiliser ce vocabulaire-là auprès des enfants.
Ok. Comment est-ce qu'on accompagne notre enfant quand il a des soins, et des soins importants, j'entends, quand il a peur ou quand il a mal ? Parce que malheureusement, tous les soins ne sont pas indolores, donc ça peut arriver que ça fasse mal. Et comment on accompagne ça avec notre enfant ?
Alors, je vais commencer par la douleur, parce que c'est très intéressant aussi de ce que tu décris. Donc déjà, il faut savoir, pour rassurer un petit peu les parents qui nous écoutent, que de plus en plus, au jour d'aujourd'hui, au sein des hôpitaux, il y a des choses qui sont mises en place pour pallier à cette douleur chez l'enfant et chez le bébé. Donc, il y a les échelles de la douleur, il y a des gaz comme le Méopa qu'on va faire respirer aux enfants, etc. Il y en a qui utilisent l'hypnose aussi. Bref, voilà, ce sont des exemples et il y en a très certainement plein d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place de la part des soignants. Encore plus, dans les, par exemple, les hôpitaux justement pour enfants ou les services de soins vraiment spécialisés pour les enfants qui sont mis en place pour pallier à cette douleur ou en tout cas la diminuer au maximum. Ensuite, si notre enfant a de l'appréhension, je pense que là, ça va être plusieurs petites choses qui vont être à mettre en place, à la fois dans le quotidien, donc de façon régulière, et à la fois aussi parfois pour le jour J où il y aura ces soins invasifs. Donc dans le quotidien, on peut utiliser tout ce qui est sophrologie, yoga, utiliser des exercices de respiration, des exercices de visualisation aussi qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça devienne une habitude, pour que l'enfant vraiment se les approprie, qu'ils prennent du plaisir à les faire, qu'ils puissent ressentir les bienfaits. Et du coup, en cas de grande peur, grand stress, grande douleur, etc., il va pouvoir les réutiliser beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'appréhension et surtout en sachant que ça va lui faire du bien et que ça va l'aider. Et du coup, nous, on sera plus à l'aise. Enfin, en tout cas, on pourra leur proposer aussi plus facilement, si on dit à notre enfant « Allez, regarde, on va respirer ensemble. » Et du coup, qu'on fait l'exercice de respiration ensemble, si c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué plusieurs fois avec lui, ce sera plus facile de le mettre en place le jour J, au moment du soin, que si on ne l'a jamais fait et qu'on lui fait découvrir ça pour la première fois, alors qu'il est déjà en panique avec ce soin invasif. Si en plus, on lui rajoute un truc qu'il ne connaît pas, il y a peu de chances pour que ce soit efficace. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi le jour J à en parler aux soignants, à lui dire peut-être que là, notre enfant a peur, qu'il s'est passé ça et ça la dernière fois, parce que peut-être que ce ne sont pas les mêmes soignants d'une semaine sur l'autre, par exemple, parce qu'il y a des congés, parce que, bref. Donc, ne pas hésiter aussi à dire dans quel état d'esprit est-ce que notre enfant est. Ensuite, on peut aussi utiliser, par exemple, des petites musiques pour le moment du soin ou même un petit peu avant pour détendre notre enfant, avoir une sorte de petite playlist de musique que notre enfant aime particulièrement. Et on se dit, OK, est-ce que tu as envie qu'on écoute telle chanson ou même qu'on la chante un petit peu si jamais on est, je sais pas, dans une salle d'attente justement et que le soin est dans un quart d'heure, eh bien, on peut patienter comme ça, essayer de se détendre et d'être déjà dans une optique de je me sens bien là tout de suite à l'intérieur de moi. Et du coup, ça va bien se passer. Et on peut garder la musique aussi pendant le soin, il n'y a pas de souci. On peut aussi prendre le doudou, si notre enfant a un doudou. Bien souvent, c'est accepté aussi dans les hôpitaux. Donc, pensez à le mettre dans le sac à main où l'enfant le prend et le garde contre lui. Et puis, le doudou à l'hôpital peut recevoir un petit peu des soins aussi. Des fois, ça marche bien quand on le fait sur la peluche avant de le faire sur l'enfant et de voir que tout s'est bien passé pour doudou. Et du coup, tout se passera bien aussi pour notre enfant. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut essayer de mettre en place pour effectivement adoucir au maximum ces moments-là. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est a posteriori, donc s'il y a eu un soin invasif, donc par exemple des piqûres ou autre, enfin quelque chose qui a été douloureux sur, par exemple, le bras, eh bien, c'est attendre quelques jours, bien évidemment, surtout s'il y a un point de ponction ou quoi. Mais 3-4 jours après, bah, pourquoi pas proposer un petit massage de la zone où l'enfant a reçu le geste invasif, pour qu'il ne garde pas en mémoire, en fait, sur cette partie-là de son corps, que c'est un endroit qui reçoit que des choses désagréables, mais bien que ça peut redevenir un lieu où les sensations vont être agréables et du coup qu'on va pouvoir retoucher plus facilement, bah, par exemple, le bras et recevoir des sensations qui vont nous procurer du bien-être et pas juste de la douleur. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup proposer après.
D'accord, très intéressant. Super. Bah, écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ?
Non, si ce n'est faites-vous confiance et faites confiance en votre enfant. Parce que c'est vrai que c'est des fois, on se pose beaucoup de questions et le cerveau se met en marche. Et des fois, on en perd un petit peu notre spontanéité avec nos enfants. Voilà, sachez que le cerveau de l'enfant est vraiment malléable et que bah, même si à un moment donné on a, je sais pas, un mot ou une phrase et on se dit bah mince, peut-être j'aurais peut-être pas dû dire ça, eh bien tout peut se rattraper après, il n'y a aucun souci. Donc voilà, soyez doux avec vous-même et pas trop exigeant.
Merci beaucoup.
Merci.
Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il pourra vous accompagner dans la traversée de moments qui peuvent être difficiles pour vous et vos enfants. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les références du livre sur la maladie et du site pour accompagner les soins des enfants. Pour retrouver les accompagnements proposés par Nadège, rendez-vous sur son site www.unamouraunaturel.com. Je vous mets également le lien dans les notes de l'épisode. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille, ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne ? En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site www.parentsinformés.fr. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is chisme ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.